Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, merci d'être à l'écoute de Radio Vatican. Tout de suite, les titres de cette édition de notre programme. Le pape fait don de 100 000 euros aux sinistrés du typhon Rai aux Philippines. Nous en parlons dans un court instant dans l'actualité de l'Église. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens se tient du 18 au 25 janvier prochain. L'édition 2022 a pour thème « Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage ». Dans le cadre de cette initiative, vous entendrez dans notre rubrique « Écuménisme et dialogue interreligieux » le père adoré Leba Misaina, prêtre de l'archidiocèse de Toamasina à Madagascar. Également dans cette édition, l'actualité sociopolitique africaine. Amis auditeurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de notre programme.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niémier.
Ouvrons l'actualité de l'Église par le don du pape au sinistré du typhon aux Philippines suite au typhon Rai qui a frappé les Philippines avec une force extraordinaire touchant selon les sources des Nations Unies environ 8 millions de personnes dans 11 régions et causant d'importants dégâts matériels. Le pape François a décidé d'envoyer une première contribution de 100 000 euros pour le secours de la population par l'intermédiaire du dicastère pour le service du développement humain intégral. L'information est rapportée dans un communiqué de presse du dicastère. En collaboration avec la Nonciature apostolique aux Philippines, cette somme sera envoyée à l'église locale et destinée aux diocèses les plus touchés par la catastrophe pour être utilisée dans les œuvres d'assistance, précise le dicastère. Ce geste du pape se veut l'expression immédiate du sentiment de proximité spirituelle et d'encouragement paternel du Saint-Père envers les personnes et les territoires touchés, manifesté en marge de l'Angelus du dimanche 19 décembre 2021 avec l'invocation de la protection de la Vierge Marie. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens se tient du 18 au 25 janvier prochain. Les méditations ont été cette année confiées au Conseil des Églises du Moyen-Orient avec comme thème général « Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage ». Au centre de ces réflexions, la situation des chrétiens aujourd'hui en Orient et la nécessité toujours plus grande d'œuvrer à leur unité. Direction Centrafrique. À l'issue de leur première assemblée plénière de l'année 2022, les évêques centrafricains ont produit un message le 14 janvier dernier. Dans ce texte, les évêques sont revenus notamment sur l'importance du synode sur la synodalité et la situation sociopolitique de leur pays. Plus de détails avec Christian Combé.
Soulignant le but du synode sur la synodalité, les évêques centrafricains expliquent que pour cette fois, le Saint-Père veut écouter chaque baptisé en tant que sujet actif de l'évangélisation. À la suite du Christ, l'Église a fait de la synodalité sa façon habituelle de vivre et d'exercer sa mission dans le monde, ont-ils écrit. S'agissant de la vie sociopolitique de la République centrafricaine, la conférence des évêques a dénoncé des sorties médiatiques et des campagnes de désinformation visant à ternir l'image et la réputation du pays et à maintenir les tensions conflictuelles au mépris de la souveraineté de l'État centrafricain. Cette situation vise à marginaliser et à isoler notre pays sur le plan diplomatique et international et cause un grand dommage économique dans le partenariat avec les institutions financières internationales qui soutiennent l'économie fragile de la République centrafricaine, peut-on lire dans le message des évêques. Pour la conférence épiscopale centrafricaine, les ressources du pays sont abusivement exploitées par des étrangers avec la complicité de certains compatriotes. Nous appelons de tous nos voeux que la transparence soit faite autour des conventions entre la Centrafrique et les partenaires et pays étrangers. Les évêques centrafricains se sont notamment exprimés sur la question du dialogue républicain souhaité par le président Faustin Archange Touadéra et censé réunir les forces vives de la nation autour d'une même table. Ils s'inquiètent aussi du retrait de plusieurs responsables politiques et s'interrogent sur l'impact réel d'un tel exercice politique dans la recherche d'un retour à la paix, à la concorde et et à la réconciliation nationale. Les évêques centrafricains souhaitent ardemment que ce dialogue soit inclusif et rappellent que ces concertations ne doivent pas non plus devenir une patente pour l'impunité. Il n'est pas question de sacrifier les exigences de la justice sur l'autel du politique, ont-ils insisté.
La police éthiopienne a libéré les 6 religieuses appartenant à la congrégation des filles de la charité de Saint-Vincent de Paul qui avaient été arrêtées à Addis Abeba, la capitale, le 30 novembre dernier. L'agence Fides rapporte que toutes les religieuses sont en bonne santé. On reste sans nouvelles en revanche de 2 diacres et de 2 religieuses de Kobo qui sont toujours en détention avec des milliers d'autres Éthiopiens d'origine tigréenne qui ont été arrêtés et sont détenus dans des lieux inconnus. Les 2 sœurs avaient été arrêtées lors d'une descente de police. L'arrestation de toutes les religieuses éthiopiennes tigréennes a donné lieu à des spéculations sur une campagne gouvernementale contre tous ceux qui sont accusés d'aider et de soutenir les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré dans le pays. Retrouvons à présent en Côte d'Ivoire notre correspondant local qui nous parle d'ordination presbytérale de 2 diacres de la communauté des Palotins.
Humilité et se faire tout à tous, c'est la principale exhortation délivrée par Mgr Jean-Salomon Lesoché aux abbés Martin Stéphano Gatangata et Armand Kwaku qui, en ce samedi 15 janvier 2022, ont été ordonnés prêtres de la Sainte Église catholique romaine. L'évêque de Yopougon, en insistant sur ces 2 points, a voulu leur donner les armes nécessaires pour un ministère pastoral selon la volonté du Seigneur.
L'humilité que nous devons avoir quand nous sommes choisis par Dieu, et puis ce que Jésus nous demande, de nous faire tout à tous. On a tel ou tel poste, et tout ça, on croit que ce sont nos mérites. Or, c'est des dons que Dieu a disposés pour que nous puissions faire son travail. Donc, je vous invite, Baquet et Stéphano, l'humilité pourquoi? Parce que Dieu nous choisit pendant que nous sommes pécheurs. Alors, méfiez-vous de l'orgueil, une fois qu'on a été choisi. Reconnaissons nos pécheurs dans toutes nos messes. Ça calme le Seigneur.
Pour les nouveaux ordonnés, c'est une grande joie de servir le Seigneur, mais également un défi à relever tous les jours, celui d'être un prêtre selon le cœur de Dieu.
Père Kwaku Baké Emma, c'est une grande joie, mais en même temps c'est aussi un défi. Et quant à savoir, est-ce qu'on pourrait, on réussirait à assurer pleinement et parfaitement les tâches à nous confier.
Père Martin Stéphano Gatangata, le premier mot que nous pouvons adresser, c'est rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et lui confier la suite de notre mission.
Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Les évêques de la conférence épiscopale Burkina-Niger ont tenu du 10 au 15 janvier dernier leur assemblée plénière ordinaire consacrée au séminaire.
Du 10 au 15 janvier courant, la conférence épiscopale Burkina-Niger a tenu sa première assemblée plénière ordinaire de l'année 2022 au grand séminaire Saint-Pierre-Claver de Koumi. Cette assemblée du mois de janvier, faut-il le rappeler, est traditionnellement consacrée à la vie des séminaires et d'autres institutions de la conférence épiscopale. Plusieurs échanges et sessions de travail ont conduit à des décisions et recommandations pour la bonne marche de ces maisons de formation qui, du reste, ont été félicitées par le vice-président de la conférence épiscopale Burkina-Niger, Mgr Gabriel Sayaogo, archevêque métropolitain de Koupela, qui a dirigé les travaux de cette assemblée en l'absence du président de la conférence pour raison de santé.
Je voudrais réitérer mes félicitations aux recteurs pour la clarté de leur rapport, quand bien même des perfections sont encore possibles. Les mêmes félicitations à leurs économes pour la clarté des bilans financiers. En plus de cette clarté, aucune de nos maisons n'a terminé l'année avec un déficit.
Après ces félicitations, Mgr Gabriel a terminé son mot de clôture par cette invitation au recteur.
Tout en reconnaissant que certaines décisions de l'autorité sont difficiles dans leur application en fonction du contexte actuel et général, nous invitons les recteurs à demeurer autant que possible en syntonie avec les évêques dans le but de sauvegarder l'unité de décision et d'action dans la formation des candidats au ministère sacerdotal.
Paul Dawagadou pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Au moins 10 personnes en sont mortes dans la capitale malgache Antananarive dans des inondations causées par des pluies diluviennes dans la nuit de lundi à mardi, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Les inondations ont provoqué des effondrements de maisons et des éboulements de terrain dans lesquels les victimes ont perdu la vie, a déclaré Sonia Ré, porte-parole du Bureau de gestion des risques et des catastrophes du ministère malgache de l'Intérieur. La Cour suprême du Kenya a commencé mardi à examiner un projet de révision constitutionnelle. Le projet est au cœur du jeu politique depuis plusieurs années dans ce pays d'Afrique de l'Est qui doit tenir le 9 août prochain ses élections présidentielles et législatives. Baptisée Building Bridge Initiative, cette révision prévoit notamment de créer de nouveaux postes dans l'exécutif et d'augmenter le nombre de parlementaires qui passera ainsi de 290 à 360. Les précisions de notre correspondante à Nairobi.
Les audiences devant la Cour suprême sont diffusées en direct par la télévision nationale depuis ce matin. Une procédure en appel, alors que par deux fois déjà, la justice kényane a bloqué ce texte, le jugeant inconstitutionnel. Ce projet prévoit notamment de créer de nouveaux postes dans ce régime présidentiel, un poste de premier ministre, deux postes de vice-premier ministre et un poste de leader de l'opposition. Selon le président sortant Uhuru Kenyatta, il s'agit là de diluer le pouvoir et d'arrêter la règle du vainqueur rafle tout, responsable selon lui des conflits post-électoraux récurrents dans le pays. Pour ses détracteurs, ce texte permettrait surtout à Kenyatta de se maintenir au pouvoir en tant que premier ministre cette fois. Il céderait alors sa place de président à son opposant historique Raila Odinga, avec qui il aurait scellé un pacte. Ce projet de révision divise la classe politique kényane depuis trois ans et attise les tensions au plus haut sommet de l'État. William Ruto, le vice-président actuel, brigue lui aussi la présidence. Lâché par Kenyatta, il ne se laissera pas faire, prévient-il. Les audiences devant la Cour suprême doivent se poursuivre jusqu'à jeudi. Les juges communiqueront alors la date de leur décision. Charlotte Simonard, Nairobi pour Radio Vatican.
Une vingtaine de rebelles et opposants condamnés notamment pour trahison ont été libérés mardi au Tchad à la suite d'une amnistie générale pour permettre la participation des groupes armés à un futur dialogue national. Cette mesure annoncée à la fin du mois de novembre dernier par les autorités et votée en décembre par le Parlement concerne en tout 296 personnes condamnées, qu'elles soient ou non détenues. Elle répond à l'une des exigences des principaux groupes rebelles pour venir à la table des négociations du dialogue national à l'invitation du président Mahamat Idriss Déby Itno. Le dialogue censé conduire à des élections présidentielles et législatives doit débuter le 15 février prochain. Le gouvernement ougandais a annoncé mardi la suspension des tests de détection du COVID-19 obligatoires à sa frontière avec le Kenya. Cette mesure a provoqué ces derniers jours d'énormes embouteillages de camions et perturbé l'approvisionnement du pays en carburant. Au moins 7 manifestants ont été tués au Soudan lundi lors des nouvelles répressions de la mobilisation contre le pouvoir militaire. Des manifestations qui ne faiblissent pas depuis le putsch du général Abdel Fattah al-Burhan fin octobre. L'émissaire de l'ONU au Soudan, Walker Perthes, a condamné l'utilisation continue de balles réelles pour réprimer les manifestations et confirmé qu'au moins 7 personnes ont été tuées et des dizaines blessées.
Radio Vatican, Français-Afrique, Françoise Niamier.
Les douanes sénégalaises ont annoncé avoir arraisonné un cargo battant pavillon du Guyana avec 3 conteneurs remplis de munitions de guerre d'une valeur estimée à 4 500 000 euros. La provenance et la destination possible de ces munitions saisies dans le port du Dakar n'ont pas été révélées.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Notre magazine du jour est consacré à l'économie. Avec Marie-José Mwando-Boabualo, nous parlons de l'impact des sanctions économiques de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sur le Mali.
Dimanche 9 janvier, les présidents de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont lourdement sanctionné le Mali. Parmi les sanctions, la rupture des relations diplomatiques de tous les pays de la sous-région avec le Mali, la fermeture des frontières communes, la suspension des transactions économiques entre les pays de la zone et le Mali, ou encore le gel des avoirs maliens à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Le Mali s'est vu frappé par une batterie de sanctions économiques aussi dures qu'inédites. Une décision qui pose plusieurs questions sur l'avenir économique du pays, déjà sous perfusion de l'aide internationale. Le Mali est plus que jamais isolé au sein de la sous-région ouest-africaine et risque de se retrouver à court de liquidités, une situation qui pourrait rapidement conduire à l'asphyxie économique du pays. Enclavé au cœur du Sahel, le commerce malien dépend grandement des ports ivoiriens et sénégalais, deux pays de la CEDEAO avec lesquels il ne peut désormais plus échanger.
Alors Marie-Josée, ces sanctions devraient avoir un effet sur le quotidien de la population malienne.
Oui Françoise, les transferts d'argent à travers les opérateurs comme Western Union pourraient devenir impossibles en cas de pénurie de liquidités. L'entrée en vigueur des sanctions a eu un premier effet immédiat mercredi dernier. Le Mali n'a pas pu réaliser une émission obligataire à court terme de 30 milliards de francs CFA, soit 45,7 millions d'euros sur le marché financier régional. Un coup dur pour un pays à l'important déficit budgétaire et qui a beaucoup utilisé ce levier en 2021 pour se financer. À partir du moment où tous les comptes du Mali sont gelés auprès de la Banque centrale, le trésor malien ne peut plus faire d'opérations financières. Le Mali est coupé du reste du monde, indique Kako Nubukpo, commissaire pour l'Union économique et monétaire ouest-africaine UOMOA. La crise de liquidité devrait avoir un impact rapide sur le salaire des fonctionnaires, notamment des militaires engagés dans le combat contre les groupes djihadistes.
Et pour contourner les sanctions de la CEDEAO, certains analystes affirment que le Mali pourrait créer sa propre monnaie et ainsi quitter le système monétaire ouest-africain.
Ce qui serait plus grave, Françoise, c'est si le Fonds monétaire international et la Banque mondiale décidaient de suspendre leurs aides financières, estiment certains analystes. Les premiers effets pourraient être ressentis dès la fin du mois de janvier au moment du paiement. On rentre dans un cycle de défiance et d'incertitude. Le pouvoir politique va être impacté dans sa capacité à mobiliser des ressources pour son fonctionnement quotidien, assène Kako Nubukpo. Les banques ne vont plus pouvoir se prêter d'argent. C'est une asphyxie financière et monétaire qui se dessine clairement. On ne peut pas exclure que le Mali se tourne vers d'autres possibilités, vers des pays partenaires qui leur fourniraient des réserves de change. Ce qui se passe peut inciter les dirigeants maliens à regarder du côté des pays émergents comme la Russie, la Chine, l'Inde, estime encore Kako Nubukpo.
Nous le disions dans les titres dans notre rubrique sur l'écuménisme et le dialogue interreligieux, nous parlons de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens avec le père Adoré Lebamisaina, prêtre de l'archidiocèse de Toamasina, situé sur la côte orientale de Madagascar, curé de la cathédrale Saint-Joseph de Tamatave et chargé de l'écuménisme à Toamasina. Dans cet entretien, il nous parle de la préparation et de l'organisation de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens dans l'archidiocèse de Toamasina.
Nous sommes à Toamasina, à 360 km de la capitale Antananarivo, et nous suivons les principes généraux du Conseil œcuménique de l'Église chrétienne de Madagascar. Et ainsi, pour cette année, nous avons prévu d'organiser une prière commune, c'est-à-dire un culte dans chaque église qui sont inclus dans les conseils des églises chrétiennes ici à Madagascar. Il y a l'église catholique, l'église anglicane, la protestante et la luthérienne. Il y aura un culte et un partage dans chaque église et nous allons faire un tour pour quelques églises dans la ville de Toamasina et en Brousse. En Brousse aussi, ils font la même chose, c'est-à-dire il y aura un culte dans chaque église que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà en particulier ce que nous allons faire pendant la semaine de l'unité pour les chrétiens.
Donc essentiellement la prière dans les cultes qui va réunir toutes les dénominations chrétiennes présentes à Toamasina.
il y aura un culte, mais il y a aussi les partages ensemble, parce que après les cultes, il y aura la réunion pour un partage avec les chrétiens. Il y aura aussi le message des responsables étatiques, c'est-à-dire des autorités locales, ici dans la ville. Il n'y a pas seulement une prière commune, il y a un partage, une convivialité, quoi, avec les autorités locales et avec les chrétiens de chaque paroisse, de chaque église.
Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus l'adorer. C'est le thème de cette année, pour cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Qu'est-ce que ce thème inspire aux chrétiens de Tohama Sina en particulier, et qu'est-ce que ce thème vous a inspiré dans la préparation justement de cette semaine?
Oui, c'est beau comme thème. Le thème de cette année est plus significatif, surtout pour nous qui œuvrent dans le domaine de l'écuménisme. Et à Madagascar, vous savez que 30% des Malgaches pratiquent encore la religion traditionnelle. Et beaucoup de chrétiens vivent encore dans le syncrétisme. Et l'étoile, pour nous ici à Tohama Sina, Madagascar, c'est un signe de l'espérance qui nous conduit vers la vraie lumière qui est le Christ. C'est un don pour les chrétiens qui aspirent à la présence aimante de Dieu. C'est pour cela que, là, parce qu'on engage là dans l'écuménisme, même dans les religions traditionnelles, pour les chrétiens, alors la lumière que les mages ont vue à l'Est est aussi un guide pour nous, que ce soit chrétiens ou ceux qui pratiquent l'animisme ou la religion traditionnelle, vers la vraie lumière qui est Jésus-Christ. Je crois que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le thème vraiment significatif ici, c'est nous, parce que là, tout le monde aspire vraiment à ces dons, à cette lumière qui est vraiment un symbole de la vraie lumière qui est Jésus-Christ.
À part le syncrétisme, à part l'animisme et la religion traditionnelle, est-ce qu'il y aurait d'autres défis pour l'écuménisme à Madagascar?
Bien sûr, parce que vous savez que nous constatons vraiment ici, surtout dans ma ville, dans les diocèses, ce que j'ai remarqué quand je me suis retourné au pays, c'est surtout la partie catholique qui est réticente à la participation à la prière commune. Cela dit peut-être surtout au passé et à l'histoire politique du pays, mais en ce moment, il y a quand même un signe d'espérance, quoi, et un changement. Mais cela fait déjà 3 ans, on a fait une sensibilisation pour cela, parce que même les prêtres, je vois que même les prêtres, ils sont réticents pour la pratique de la prière commune, pour l'engagement écuménique. On a sensibilisé, on a éclairé, on a vraiment expliqué qu'est-ce qui nous empêche encore de se réunir, de participer à la prière commune. Parce que vous voyez que pour nous, les catholiques, l'écuménisme n'est pas un choix, ce n'est pas une option, comme a dit le Concile Vatican II. Vraiment, c'est une obligation pour nous, l'écuménisme. C'est pour cela qu'on a sensibilisé les prêtres, les responsables de chaque paroisse, de chaque église, à la participation, surtout à l'engagement pour l'écuménisme. Voilà les défis particuliers pour nous dans ces diocèses. Et comme je vous ai déjà dit, il y a aussi l'animisme, la religion traditionnelle. Là aussi, c'est un défi pour nous, ouais, parce que Madagascar est encore une terre de mission.
Donc, un encouragement aux prêtres et aux catholiques aussi de participer à la prière œcuménique. Et est-ce que vous auriez un mot de la fin ou quelque chose d'autre à ajouter en lien avec cette semaine des prières pour l'unité des chrétiens, ou un message que vous voulez lancer aux fidèles?
Oui, comme message, je pense que je viens de répéter ou encore de redire ce que le pape lui-même nous a envoyé pendant cette semaine des prières pour l'unité des chrétiens. Et la prière de tous les chrétiens pour l'unité est constitutive de la vie chrétienne. Elle répond, celle de Jésus, à son Père qui demande l'unité de ses disciples pour que le monde croit que lui, Jésus, est l'envoyé par le Père. Et si le monde ne croit pas que Jésus est l'envoyé du Père, c'est en grande partie à cause de la division des chrétiens. Alors, si nous voulons que l'Évangile soit source de vie, je répète, je cite le pape, hâtons-nous à intensifier nos prières pour l'unité. Voilà un message particulier, je pense, pour les chrétiens du diocèse de Madagascar et surtout pour nous aussi à travers le monde, parce que l'œcuménisme est une obligation, n'est pas une option pour nous, surtout dans la religion catholique.
C'était le père Adorele Bamisaina, chargé de l'œcuménisme dans l'archidiocèse de Toamasina à Madagascar. Il répondait aux questions de Stanislas Kambashi.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Amis auditeurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. À très bientôt.
Ma vie, c'est le Christ et son évangile. Je veux être à lui, être son ami. Je lui donne ma vie, tout ce que je suis, car il m'a aimé et m'a racheté. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie! Et toujours à toi, ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie, et toujours à toi. Comme un bon berger, il m'a tant cherché et enfin trouvé. Je suis comblé, je veux le louer. Je veux l'acclamer, partout annoncer. Il est la vérité. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie, et toujours à toi. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie. Toujours à toi. Oh, oh, oh.